Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Le meilleur de Séances Radio est maintenant sur We Love Cinéma.
Vous écoutez La Grande Séance, l'émission 100% cinéma en live sur Séances Radio.
Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle émission. Vous la connaissez maintenant depuis un bon bout de temps. Alors je présente mes jeunes blogueurs, Claire Fayot, que vous connaissez désormais, le genou de Claire.
Bonsoir.
Alexis Yomet, bonsoir Claire. Alexis Yomet, de filmosphère.com et de Clone White. Bonsoir Alexis.
Bonsoir Bruno.
Antoine Cyr est à mes côtés.
Bonsoir.
Et on parlera avec lui de son superbe livre Hollywood, la cité des femmes. C'est dans cet ordre-là qu'il faut le dire.
Oh ben ça me va très bien,
ouais,
en tout cas.
Superbe livre dont on aura l'occasion de parler. Et puis j'ai le grand plaisir de recevoir dans ce studio Avia Hirsi pour Sex Doll, qui sort aujourd'hui de Sylvie Verrette, qui est une excellente réalisatrice. Ils sont donc aujourd'hui. Bonsoir Avia.
Bonsoir.
Ah, j'ai une petite première question, parce que c'est un peu le jeu de l'émission. Est-ce que vous avez hésité une seconde avant de tourner ce film quand vous avez lu le scénario? Est-ce que vous avez réfléchi?
Pas du tout, j'ai pas hésité une seconde et voilà.
Voilà.
Je réfléchis, mais je me lance souvent, voilà, à l'instant.
Même si le film, il y avait des scènes compliquées à tourner, des scènes parfois violentes, on va
pas
expliquer le pitch du film.
Plaît, ouais,
ça vous plaît?
Oui.
Vous vous lancez comme ça?
Oui, bah, c'est ce qui me plaît en tout cas pour moi dans le jeu, c'est de me dépasser, d'aller où même moi je pense que j'irai pas, quoi.
Ouais, et là c'était le cas.
Oui, c'était un plaisir.
Nicolas Balazar.
Bonsoir à tous.
Bonsoir Nicolas, comment peut-on nous joindre?
Alors,
participer à l'émission?
Pour intervenir en direct et poser toutes vos questions à notre invité, il suffit de vous connecter sur Twitter avec le compte Séance Radio et le hashtag La Grande Séance, ou sur notre compte Facebook.
Voilà, et vous savez tout, le débat, d'abord on parlera de tous les événements, parce qu'il y en a pas mal, la fête du court-métrage, le festival des arcs, etc. Le débat, ce sera le cinéma d'animation, parce que on a eu beaucoup de débats dans cette émission, on a peu parlé du film d'animation, et cet été, que ce soit du côté américain, hollywoodien, ou du côté français, ça a été assez brillant, donc on parlera, et puis il y aura notre blind test habituel, et ce seront quelques extraits de films de Noël que vous devrez trouver. Voilà, dans un instant, on fait les tops et les flops du box-office de ce mois.
La grande séance, le box-office.
Alors, les tops et les flops, il faut simplement que je les retrouve. Ils sont là. Les tops et les flops, c'est simple, vous allez avoir des surprises. Côté français. Alors, on a eu du mal, malheureusement, à trouver des tops. Vous êtes d'accord avec moi, Claire et Alexis?
Au niveau des entrées ou...
Au niveau des entrées.
Ah, d'accord.
Oui, pas au niveau du... Un jour,
de
on fera
qualité,
une petite discussion critique, mais absolument.
D'accord.
Au
non,
niveau des entrées...
économique.
Au niveau économique, moi, le seul que j'ai trouvé qui marche bien et qui était un peu une surprise, c'est La Folle Histoire de Max et Léon, qui est à 1 200 000 entrées.
Waouh.
Moi, je ne l'ai pas vu. Ce sont les animateurs du Palma Show qui ont fait une espèce de d'hommage à la Grande Vadrouille. Vous l'avez vu, Alexis?
Oui, je l'avais vu.
Alors, c'était comment?
Moi, j'aime bien le Palma Show pour les sketchs qu'ils font à la télévision. C'est un humour qui marche bien sur 5 minutes. Et après, sur le film, je trouve que c'était un petit peu redondant. On passait vraiment de séquence en séquence. Ça faisait pas vraiment un film en entier, comme on pourrait voir sur La Grande Vadrouille, ça fonctionne vraiment sur 2 heures. Mais c'est un film assez plaisant et je pense que le film a beaucoup fonctionné, notamment parce qu'ils ont cette base de fans par la télévision et Internet qui sont allés le voir au cinéma.
Et puis ceux qui sont allés voir le film n'ont peut-être jamais vu La Grande Vadrouille. Hein. C'est
aussi
une autre génération, hein. Il faut dire ça aussi. Alors ça, c'est le top, j'en ai pas trouvé d'autres. Côté flop, du côté français, la plus grande catastrophe, malheureusement, parce que c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. Vous vous souvenez de La Loi du Marché, hein,
ah oui,
qui avait brillé à Cannes.
Brisé,
Stéphane Brisé, avec Lindon qui a eu un prix d'interprétation à Cannes. Son film, d'après Maupassant, Une Vie, n'est qu'à 65 000 entrées en 2 semaines.
Mais c'est bien dommage.
C'est beaucoup, ouais.
Oui, alors,
je me souviens qu'on en avait parlé quelques mois avant, puisque c'était une adaptation de roman et ce film est passé à Venise, donc il aurait pu avoir un bon bouche à oreille.
Et le film est beau en plus.
Le film est bon, Judith Suimla est formidable dedans. C'est le gros point fort du film. Après, voilà, peut-être que le film peut sembler un peu aride.
Mais moi, je crois, si je puis me permettre, Claire, de vous interrompre, c'est que les gens n'y sont pas allés. C'est pas que ça leur a pas plu. C'est pas que le bouche à oreille a été mauvais. C'est que Une vie, d'après Maupassant, ça n'a pas intéressé les gens.
Il fallait que les professeurs de français incitent leurs élèves à y aller. Oui. Je ne sais pas.
Ça marche de moins en moins, les adaptations.
C'est vrai.
J'ai l'impression, ouais.
Bah, de toute façon, mais quand au bac, on parle de Victor Hugo, il y a 400 tweets pour expliquer que c'est scandaleux. Donc,
non, mais vous savez, moi je me souviens que pour Germinal de Claude Berry, il avait fait un accord avec l'éducation nationale et le film avait eu un énorme succès aussi parce que ça avait été au programme, mais les lycées avaient emmené des cohortes d'élèves dans toute la France voir Germinal et je pense que Stéphane Brisé n'a pas fait ça.
Mais c'est dommage, parce que c'est un livre magnifique.
C'est un super
beau portrait de femme.
Qu'il faut lire, je pense.
Oui, il faut le lire.
Dans sa vie, ouais.
Et franchement, je sais pas comment on peut récupérer le film. Il est encore en salle parce que le film est très beau. Il est très beau et en plus, Stéphane Brisé a eu le talent de mélanger différentes époques et il le fait. Il fait comme ça des flashbacks, des flash forwards, etc. De façon extrêmement habile et tout passe. Et en effet, Judith Suimla est bien et voilà. Et tous les acteurs sont bons dans le film. Voilà, c'est un échec et malheureusement, le film risque de ne pas atteindre les 100 000 entrées. Autre flop un peu plus mesuré, mais c'est quand même La fille de Brest d'Emmanuel Berco, qui pareil, en 2 ou 3 semaines, est à 240 000 entrées, et je pense que c'est un peu un échec et qu'elle attendait mieux, Emmanuel Berco. Puis alors, il y a d'autres échecs, mais ça, j'en parle pas. Parce que c'est voilà c'est trop côté américain. Oui non, Antoine Cyr.
Pardon, mais comment avait marché le film sur Kerviel?
L'outsider,
moyennement. C'était pas un gros échec, hein.
Mais ça avait pas fait
un gros carton. Ouais, c'est dans mon souvenir. Hein.
Ouais.
Qu'est-ce que vous diriez, 400-500 000 entrées
je crois,
peut-être.
Ouais, je crois.
C'est dans ces eaux-là.
Ça dépend ce qu'il a coûté après. Ouais.
Non, mais ce qui est quand même, il faut se demander si sur les, puisque La fille de Brest, c'est le scandale.
Oui, Médiator.
Le scandale Médiator.
Les gens, ça les attire pas.
Donc il faut se demander si les questions d'actualité, les gens ont envie de les voir traiter
la vraie question.
Fiction, ou s'ils ont envie de les voir traiter par l'actualité, c'est une question. Ou alors, peut-être qu'il y a besoin d'avoir peut-être un peu de recul.
Peut-être
que le cinéma permet sans doute de traiter n'importe quelle histoire vraie, puisqu'il y a des milliards de films formidables qui sont faits avec des histoires vraies. Mais peut-être que sur ces histoires-là, le cinéma apporte plus quand il a un peu de recul, voire quelques années de recul, qui permettent de raconter ça vraiment comme une histoire, plutôt que d'essayer de surfer sur l'actualité proche.
Enfin, je sais pas, c'est dommage parce que
surtout
la fille
quand c'est pas vraiment résolu, quand il y a encore des victimes,
Claire Fayot,
pour le médiateur notamment. Enfin,
ouais, c'est dommage parce que je l'ai vu évidemment, et La fille de Brest c'est un bon film.
C'est une super réalisatrice.
Moi, je trouve que La fille de Brest c'est un bon film. C'est traité sous forme de thriller, un peu comme tous ces films d'enquête et de recherche, et c'est précis, c'est réaliste, et en même temps, la fille Irène Frachon est une héroïne. Donc c'est un combat qu'elle mène quasiment toute seule. Non, mais c'est un très bon film.
Essayez
de rattraper.
Les gens ont envie de rigoler, je pense.
En ce moment, absolument. Mmh. Ils ont envie de rire, et c'est pour ça que la comédie marche. Côté américain. Alors le top, c'est Les Animaux Fantastiques, que je n'ai pas vu, qui est une sorte de spin-off d'Harry Potter, c'est ça ?
C'est ça.
Oui, on peut dire ça comme ça. Ça se passe avant Harry Potter. Alors je ne l'ai pas vu. En fait, j'ai vu que les 10 premières minutes du film.
C'est-à-dire vous, Alexis ?
J'ai vu tout le film. C'est quand même.
Bon alors, la parole à Alexis.
Alors, comment dire ? Ça se passe dans l'univers d'Harry Potter, mais plusieurs années avant. Là, cette fois, au lieu d'être à Poudlard, donc la fameuse école où Harry Potter avait toutes ses aventures, là, cette fois, on est à New York en 1926, et donc on suit un nouveau personnage, et donc on a toute une nouvelle galerie de personnages qui sont liés quand même à l'univers d'Harry Potter. Ça aurait pu être très bien, je pense, mais le gros problème du film, ça reste, je pense, son réalisateur, qui est David Yates, qui avait réalisé les 4 derniers films Harry Potter, et qui est pas un très très bon réalisateur, je trouve. Le film, pas extraordinairement extraordinairement bien fait, alors qu'il avait tout, que ce soit les personnages ou l'histoire, qui pouvait être très intéressant.
En tout cas, dans un marché qui est quand même un peu compliqué, 2 800 000 entrées, c'est pas mal, ouais. Non?
Bah, ça sert à ça, des franchises.
Pour voir des Potterheads, voilà, ça c'est les fans de Harry Potter. Attendent le film et attendent ses suites, puisqu'il y aura 4 suites. J.K.
Oui.
Rowling a écrit 4 scénaris.
Elle est déjà
les
femmes les plus riches d'Angleterre, elle le mérite après ce qui s'était passé dans sa vie, donc bravo. Et alors, dans les tops, devinez dans les flops, américains, c'est quand même Allié.
Ah oui, deuxième.
Allié de Robert Zemeckis. Parce qu'il est en deuxième semaine, il est à 670 000 entrées, c'est pas beaucoup. Pour une affiche Brad Pitt, Marion Cotillard, c'est pas beaucoup. Zemeckis quand même, le monsieur de Forrest Gump.
C'est bizarre.
Donc ça, c'est un échec.
De Contact. Bah, ouais. C'est-à-dire que déjà Flight avait déçu. Donc là, malheureusement, Allié.
Après, je sais pas, film de guerre, si ça tire pas forcément. Et pourtant, il avait deux méga stars à son casting, mais ça pas assez bien fonctionné. Puis même aux États-Unis, ça s'est un peu planté.
Alors le film n'est pas très bon. Hein.
La critique a pas été tendre.
Aux États-Unis, j'ai des chiffres. Le film est à 28 millions de dollars en deux semaines, donc c'est un échec puisqu'il a coûté 85 millions de dollars.
Wow.
Donc là, aux États-Unis, c'est un flop. Et moi, je l'ai vu, c'est un roman photo qui prête à sourire. Ça pour être gentil. Voilà. Un autre pas très très bon résultat, c'est Inferno. C'est toujours un award.
Oui, toujours.
840 000 entrées en quatre semaines.
Voilà aussi, je pense que
c'est
on s'essouffle un peu, quoi.
Un succès, ouais. C'est toute la série.
C'est une adaptation.
Et puis les flops aussi, Tu ne tueras point de Mel Gibson, parce que même pas 500 000 entrées en 4 semaines, un film de Mel Gibson.
Film historique, là encore.
Voilà, Tu ne tueras point, un film de guerre.
Oui.
Battu, j'ai noté, par Jérôme Commandeur, qui fait son premier film et qui lui fait 531 000 entrées avec Ma famille t'adore déjà. Donc que Jérôme Commandeur batte Mel Gibson,
c'est
toute une époque.
Ça veut tout dire. Les gens ont envie de rigoler.
Absolument. Vous avez raison. On se retrouve dans un instant avec nos blogueurs.
La grande séance, l'actu cinéma des blogueurs.
Honneur aux dames, Claire Fayot, vous voulez nous parler de l'adaptation des jeux vidéo au cinéma à l'occasion de la sortie d'Assassin's Creed.
Assassin's Creed,
personne n'a vu,
le 21 décembre.
On vous l'a caché, le film.
Certains blogueurs ont été conviés, mais pas moi. Et pourtant, je connais bien la franchise Assassin's Creed. Voilà, j'ai un gamer à la maison, donc... Donc oui, si je vous dis Assassin's Creed, Tomb Raider et Lara Croft, je ne sais pas, Angry Birds, Resident Evil, Silent Hill et j'en passe. Tout ceci.
J'en ai pas vu un seul, moi.
Là, Super Mario, peut-être, dans les années 90. Non.
Même pas un petit Tomb Raider.
Non, je suis nul.
Même pas pour Angelina Jolie. Bon, bah là, si je vous dis presque 100 milliards de dollars de recettes prévues en 2016, c'est la somme d'argent qui est récoltée par les éditeurs de jeux vidéo.
Plus qu'au cinéma.
Je vous dis, je crois, 100 millions de jeux vendus pour Assassin's Creed, 17 jeux depuis 2007, 10 millions de fans sur Facebook. Pour Assassin's Creed, voyez un petit peu le marché que ça représente.
Alors, est-ce que le film peut cartonner en France?
Le film, alors oui. Voilà, moi je dis prudence, parce que une adaptation de jeux vidéo au cinéma, ça peut être une vraie fausse bonne idée.
Ouais.
Parce qu'il y a
Marion
quand même
Cotillard
beaucoup
dedans, non?
Oui, alors il y a Marion Cotillard, il y a Michael Fassbender,
quand même.
Il y a Justin Kersel. Donc on reprend le trio de Macbeth qui est passé à Cannes, qui s'est fait remarquer. Donc il y a une nouvelle tendance, c'est faire des jeux vidéo qui ne sont pas des copier-coller. Des jeux vidéo adaptés au cinéma qui ne sont pas des copier-coller des jeux vidéo. Donc qui créent un vrai scénario, et c'est tant mieux, parce que souvent ce qui pêche, c'est à la fois l'adaptation, on va dire, graphique. Par exemple, voir Super Mario dans la peau de Bob Hoskins, alors que c'est un petit personnage colorié avec des gros pixels, c'est très étrange, surtout si on ajoute un scénario un peu violent qui n'a pas grand chose à voir avec le jeu vidéo. Donc là, maintenant, on respecte de plus en plus, j'allais dire, le graphisme des jeux vidéo qui en plus sont très réalistes. Là, honnêtement, là c'est le le film et le jeu, mais ça se ressemble. C'est hallucinant.
C'est destiné à quel public, aux jeunes alors ?
Alors, je pense que c'est pour attirer les gamers, les... Mais qui sont ceux qui s'étalent sur deux générations maintenant ? Il y a les gamers qui sont cadras, et puis il y a leurs enfants qui sont ados. On peut aller voir une franchise de jeux vidéo au cinéma avec ses enfants.
On est quand même loin du cinéma de création quand même, hein, parce que alors, du jeu vidéo adapté au cinéma.
Alors, détrompez-vous, parce que quand même, on a des cinéastes qui sont de vrais artistes, auteurs qui acceptent de tourner une franchise. On a eu Duncan Jones qui a fait Warcraft, bon, qui n'a pas marché. Là, on a Justin Kersel qui passe de Macbeth à Assassin's Creed.
Exact.
Donc, tout est une question de scénario. Et on a des acteurs qui sont, comment dire, qui ont vraiment prouvé qu'ils savaient jouer des choses très variées, qui acceptent de venir dans un jeu vidéo.
Sous quelle forme on va voir Marion Cotillard dans les...
Elle va jouer un des personnages principaux de la...
Mais en live
saga.
Ou alors...
Elle n'est pas transformée
en un personnage de vidéo.
Non, ils sont en chair et en os, tous.
D'accord.
Et c'est vrai que c'est... Pour l'instant, ça marche pas bien. Angry Birds, qui typiquement est l'adaptation d'un jeu qui est assez bourrin, c'est-à-dire ce sont des oiseaux que l'on lance via une catapulte sur des cochons verts. Bon, bah là, ils ont inventé toute une histoire.
C'est quand même un grand thème cinématographique. Hein, c'est quand même un truc avec un argument pareil.
Donc, en fait,
ne peut être que réussi.
Tourner les anciens.
Donc là, c'est un film d'animation. Voilà. Donc, c'est plus facile d'adapter les graphismes. Mais je pense que ça peut vraiment attirer des personnes qui n'aiment pas aller au cinéma. Et ça peut aussi peut-être même créer la paix dans certains foyers. Parce que entre aller au cinéma ou rester jouer à la console, et ben parfois, la lutte est rude. Alors là, bah on pouvait jouer à la console et ensuite voir le film qui est adapté du jeu.
Merci Claire. Alors moi je
peux poser une question à Claire.
Oui.
Est-ce que Roller... Moi il y a eu un seul jeu vidéo qui m'a amusé dans toute ma vie. C'est un truc qui s'appelait Roller Coaster Tycoon. où il fallait créer son parc d'attractions. Et ça, je trouvais que on aurait pu faire un très bon film.
Un très bon film.
Il y en a pas eu ?
Non, à ma connaissance, bah, non. Il y a jouer, une hein, liste ouais. de...
Vas-y, lancez-vous.
J'ai vu une liste de 130 jeux vidéo qui ont été adaptés quand même.
Ouais.
Mais je ne l'ai pas vu celui-là, je dois dire. Par contre, une dernière chose, les films qui s'inspirent de différents jeux vidéo comme Matrix, Tron, ils s'inspirent, c'est l'esthétique jeu vidéo, ça cartonne.
Ah bon.
Donc c'est peut-être la future étape, ou alors faire un film comme Pixel qui rend honneur aux jeux vidéo d'arcade.
Moi je me suis pas mis aux jeux vidéo, mais plutôt aux séries, parce que là il y a quand même de la qualité, donc à vous de parler Alexis.
Alors je sais pas si vous l'avez vu, c'est la série The Young Pope.
Moi j'ai vu le premier épisode, c'était génial.
Voilà, donc il faut regarder les 9 autres épisodes parce que la première saison est absolument géniale. Donc pourquoi je parle spécifiquement de cette série ? Eh bien en fait parce qu'elle est réalisée par Paolo Sorrentino.
Très grand réalisateur italien.
Voilà, réalisateur italien de cinéma.
Donc,
La Grande des Bellezza,
récemment. Voilà.
Ah, voilà, donc pourquoi le réalisateur de cinéma va-t-il sur le petit écran alors qu'il s'éclate déjà sur le grand écran ? Eh bien, bizarrement, ces dernières années, je trouve parmi les séries les plus intéressantes, ce sont celles qui sont réalisées par les réalisateurs de cinéma.
Comme Martin Scorsese.
Voilà, ou produites, je pense plutôt à la réalisation parce que je pense notamment à Zonic, la série
sur un
hôpital américain qui était réalisée, montée, photographié et cadré par Steven Soderbergh. Et la série est absolument géniale. Et là, c'est pareil sur The Young Pope, puisqu'on a Paolo Sorrentino qui écrit et réalise tous les épisodes.
Avec Jude Law.
Avec Jude Law, en fait, qui interprète donc un jeune pape qui vient d'être élu. Donc, évidemment, le conclave, c'est toute une manipulation pour obtenir le meilleur candidat qui sera manipulable à souhait. Et en fait, il s'avère que le candidat qu'ils viennent de choisir, donc c'est un jeune pape qui est ultra rigoriste, qui déteste tout le monde, qui déteste tous les fidèles.
Faut pas en dire trop. Moi, j'ai vu le premier épisode, il a pas l'air de détester tout le monde, mais il est quand même assez curieux, hein.
Voilà.
Il est assez fascinant, hein. C'est un drôle de pape, hein. Mais c'est fort. C'est fort. C'est vrai que ça ressemble à un film de cinéma. Le premier épisode que j'ai vu, et c'est du Sorrentino pur, quoi. C'est magnifique.
Voilà. Ça va dans tous les sens. Et en fait, ce qu'il faut s'imaginer, c'est que la série, c'est un mélange entre, donc, la série House of Cards, puisqu'on a des des passages qui sont complètement fantasmés par le personnage, et le film Habemus Papam de Nanni Moretti, notamment à cause du lieu et de scènes un petit peu absurdes.
Elle est passée sur Canal+, et on peut la retrouver, j'imagine, en coffret de Noël ou
Il est déjà disponible en Blu-ray DVD.
Il y a des grands films de pape, hein. Il y a Le Cardinal aussi, de Preminger, etc. Et puis, il y a Scorsese, simplement sur vinyle, il a réalisé le premier quand même.
Ce
qui est assez intéressant, c'est que parfois, il y a un réalisateur de cinéma qui fixe quand même un peu la norme en faisant le pilote de la série, quitte à ce que d'autres ensuite la fassent évoluer.
Justement, ce que je trouve étrange, c'est que autant à Hollywood, on fait de plus en plus de films qui se ressemblent les uns les autres, qui sont quasiment des feuilletons de 2 heures à chaque fois, comme on peut voir pour les Marvel ou Star Wars, où c'est des films qui suivent comme des séries télé, mais qui se ressemblent pas vraiment, et où les réalisateurs n'ont pas vraiment de choix artistique disponible. Alors que quand on va du côté de la télévision, on peut faire des choses un petit peu violentes, sexuelles et tout ça, on peut y aller à fond, et les réalisateurs, c'est ce qu'ils cherchent, justement, ils essaient de s'exprimer au maximum, et souvent maintenant, ils retrouvent plus à la télévision.
Le cinéma et les séries, le cinéma et les jeux vidéo. Merci Claire, merci Alexis. Dans un instant, on se retrouve avec notre invité Avia Herzi.
La grande séance, l'interview.
Donc, Sex Doll, le film de Sylvie Vered, sort aujourd'hui, avec dans le rôle principal Avia Herzi. On trouve aussi Carole Rocher, un jeune acteur que j'ai jamais vu au cinéma, je crois qu'il était à mannequin, il s'appelle H. Stimet.
Oui, c'est ça.
Voilà, qui est excellent.
Son premier film.
Donc, 3 personnages principaux. L'histoire, c'est celle du personnage que vous incarnez, Avia Herzi. Elle s'appelle Virginie, mais elle s'appelle en vérité Malika. On va la prendre au cours du film. C'est une jeune prostituée de luxe. C'est-à-dire qu'elle est un peu sous la coupe. C'est comme ça qu'elle gagne sa vie. Elle est sous la coupe d'une mère maquerelle, on peut dire, mais voilà, c'est un peu plus subtil que ça, parce que c'est sa patronne, et en même temps c'est presque une maman. C'est une maman qui est assez caressante et qui la protège. Et elle se résout à faire ce métier parce que c'est le personnage principal, Virginie, parce que c'est comme ça qu'elle gagne sa vie. Et va entrer dans cette histoire un jeune homme dont on vient de parler, qui est très mystérieux, et on faut pas en dire trop, qui la suit, qui l'aide, qui est comme un ami, on sait pas trop ce qu'il veut. On va découvrir au fil du film. En tout cas, c'est comme un peu un archange, parce que il est toujours là au bon moment. Il est toujours là au bon moment. Et ce personnage que vous jouez, Avia Herzi, elle se retrouve dans des endroits isolés, avec des types qui sont pas très recommandables, des espèces de bourgeois avinés et assez repoussants. Et voilà, il faut faire le travail de la prostituée. Évidemment, ça peut tourner mal, et parfois ça tournera mal, donc il y a de la violence, il y a du sexe, toujours filmé avec beaucoup de pudeur d'ailleurs par Sylvie Vered. C'est pas un film coquin, hein, mais en même temps il y a des scènes qui sont tout à fait réalistes, et puis je dirais pas la suite parce qu'il faut pas spoiler, comme on dit. J'ai bien raconté?
Parfait. Ouais.
Alors je vous posais la question tout à l'heure, je me souviens que je vous avais interviewé au Festival de Cannes. Je crois qu'à l'époque, vous aviez au moins 2 actualités. Il y avait d'un côté La Source des Femmes,
oui,
qui est un film joli, tendre, engagé. Et de l'autre côté, il y avait Apollonide,
oui,
où vous jouiez une prostituée.
Aussi, oui.
Déjà.
Mais d'époque, c'est pas pareil, ouais.
Alors, je ne sais pas combien de prostituées.
Dans un bordel.
Ça n'est que la deuxième prostituée en 10 ans de carrière. Non, il y en a eu d'autres. Avoué.
Troisième,
bon, ça
mais
va.
Mais à chaque fois différent.
À chaque fois différent.
Catherine Deneuve en a fait beaucoup aussi.
Oui,
ouais.
Belle comparaison. Parce que, je refais un petit portrait au passage, parce que nous avons tous découvert avec bonheur Avia Herzi dans La Graine et le Mulet en 2007, mais tournée un peu avant, donc elle avait 18 ans, elle avait tout juste 18 ans, elle va fêter ses 30 ans très bientôt.
On peut dire, ouais.
Donc elle a grandi, on peut le dire. Si c'était 60, on s'abstiendrait. Pour Isabelle Adjani, on s'abstient en général, mais il y a eu Un homme et son chien, il y a eu Le roi de l'évasion d'Alain Guiraudy, dont on a beaucoup reparlé d'Alain Guiraudy, parce que après il y a eu L'inconnu du lac et son dernier film à Cannes, il y a eu La source des femmes, l'Apollonide, Ma compagne de nuit que j'avais vue, si je me souviens, c'était avec Emmanuel Béart, c'était ça. Elle s'en va d'Emmanuel Berco, et puis il y aura d'autres films. Donc une jolie carrière, j'ai compté une presque une trentaine de films, donc c'est pas mal. Alors, je vous posais la question, c'est un film où il faut s'engager à fond, parce que vous avez des scènes un peu dénudées, des scènes assez violentes, mais pas que, parce qu'il y a des scènes de tendresse aussi. Et vous disiez tout à l'heure que ça vous a pas fait peur. Comment vous choisissez vos films? À l'instinct?
Au coup de cœur, à l'instinct, et s'il y a quelque chose d'intéressant à jouer. Si c'est pour jouer toujours la même chose, ça, franchement, ça m'intéresse pas. Donc, on va dire que moi, j'ai besoin de vivre des choses fortes, de me mettre en danger, sinon ça m'intéresse pas.
Et ce rôle, comment en tant qu'actrice, alors j'ai pas dit que vous étiez excellente dans le rôle, que vous êtes belle en plus et que vous êtes impressionnante à l'écran. Comment vous engagez dans le rôle? Quelle est votre préparation? C'est parce que vous jouez pas n'importe quel personnage.
Alors la préparation, elle a été déjà j'ai rencontré Sylvie, après on a appris à faire connaissance, donc à s'apprivoiser un petit peu, parce que c'est important de se sentir en confiance aussi, autant pour elle que pour moi. Donc après, on a longuement parlé de l'histoire, du personnage, et on a rencontré des call girls,
oui,
de luxe. Donc on a bu des verres avec elles, on a échangé longuement. Et en fait, je me suis aperçue que c'était des filles normales, quoi. Comme moi, comme n'importe quelle jeune femme de cette génération-là. En fait, elles avaient entre 20 et 35 ans. Donc vraiment avec des parcours très différents. Et ensuite, après, j'ai travaillé physiquement pour être un petit peu crédible.
C'est-à-dire?
Moi, j'aime bien manger. Donc, j'aime bien la vie, j'aime manger. Donc, il a fallu perdre du poids. Sylvie, elle s'en foutait, mais moi, vraiment, j'y tenais parce que quand je voyais les filles, c'est vrai qu'elles ont même une certaine puissance physique.
Ouais.
Elles font beaucoup de sport et il en faut, quoi. Il faut être solide physiquement. Du coup, j'ai perdu du poids, j'ai fait du sport tous les jours, jusqu'au tournage.
Qu'est-ce qu'elles vous ont raconté, ces filles? Parce que vous, dans l'histoire, il y a un scénario qui montre qu'elles sont confrontées, que vous êtes confrontées avec votre collègue dans le film femme à de la violence. Elles vous ont raconté que ça pouvait être violent et qu'il fallait te tenir le coup?
Alors oui, elles m'ont raconté que c'était très violent, que ça pouvait être très très violent, parfois pas tout le temps, mais déjà l'acte en soi c'est violent, et que elles apprennent souvent à se défendre. Enfin, c'est pas des princesses, quoi, vraiment c'est des, je vais pas dire des petits hommes, mais voilà, elles sont prêtes à aller à se battre, à y aller, quoi.
Est-ce qu'il y a eu des scènes, sans spoiler le film, est-ce qu'il y a eu des scènes difficiles à tourner?
Pour moi tout est difficile, parce que il fallait qu'à chaque moment, chaque scène, chaque prise, il fallait que je sois
être dedans,
le personnage, donc se tenir toujours droite, pas trop sourire, enfin vraiment être dans mon personnage, cette fille qui ment tout le temps, qui cache, qui a une double vie, ouais, qui peut pas être ce qu'elle est, qui sait même pas, je pense, qu'elle est. Donc beaucoup de concentration. Après, j'étais préparée. C'était un plaisir.
Votre personnage, Virginie Malika, il doit être dur d'ailleurs. Et on sent que ce jeune homme qui la protège veut l'aider, veut peut-être l'aimer, et elle le refuse. Pourquoi?
Alors elle le refuse parce qu'elle n'a pas l'habitude, elle ne connaît pas ce sentiment-là. L'amour, la tendresse, elle ne connaît pas. Comme la plupart des filles que j'ai pu rencontrer avec Sylvie, souvent elles n'ont pas rencontré l'amour. Du coup elles sont un peu, elles ont peur de ça, enfin c'est quelque chose de bizarre. Donc elle a peur de lui, déjà parce qu'elle ne le connaît pas et qu'elle est tout le temps dans la méfiance. Et ça lui fait bizarre, quoi, de ressentir, on va dire, des papillons dans le ventre, de l'attirance pour quelqu'un de son âge. Et d'ailleurs, avec lui, elle va découvrir, son corps, et que son cœur peut battre pour quelqu'un, et qu'elle peut avoir du plaisir aussi.
Alors il y a une très jolie phrase à la fin du film, mais je peux pas la dire, parce que si je la dis, leur dernier dialogue, ça apprend des choses sur le film, hein, les dernières répliques qui se donnent. Alors je reviens sur votre carrière. On parle du corps, c'est drôle, parce que dans La Graine et le Mulet, qui vous a rendu célèbre. Le corps était très important. Mmh. Vous aviez pris. Alors là, on vous demande de mincir, et dans la graine et le mulet, on vous avait demandé de grossir, oui, pour faire la fameuse danse du ventre. C'est drôle que ce soit le corps aussi, pas que, qui intéresse les metteurs en scène.
Toujours, mais de toute façon, acteur, en tout cas pour moi, bon, je l'ai appris hein, parce que j'ai pas fait de formation, mais on joue avec son corps à la base, donc il faut être en forme, il faut. On est. Je veux dire, moi, quand j'essaie de créer des personnages, vraiment, je commence par le corps, voilà. Mmh. Est-ce que, bah, si c'est par exemple, je sais pas, quelqu'un qui est, on va dire, en dépression, bah, je vais pas aller faire du sport, je vais plutôt un peu me laisser aller, voilà. Donc, ça dépend. Mais le corps, oui, c'est important.
Le corps, c'est important.
Après, c'est vrai, oui. Sylvie, elle m'a pas demandé de maigrir, hein. C'est moi qui ai voulu, qui ai insisté. Et après, oui, c'est important, on joue avec son corps. C'est la base, en fait.
Est-ce que ce fameux film La Graine et le Mulet vous a poursuivi, vous a mis le pied à l'étrier, ou au contraire est-ce que c'est pas une espèce de film culte qu'on vous, comme je le fais aujourd'hui, qu'on vous affiche tout le temps, viens-y, c'est La Graine et le Mulet. Est-ce que c'est difficile d'en sortir?
Pas du tout, et je suis très fière, et c'est beau d'être dans un film culte. C'est magnifique. Dans une carrière, c'est une chance, et d'avoir eu ce succès là et d'ailleurs aujourd'hui, bon, ça fait longtemps le tournage, ça va faire 11 ans,
ça
passe,
ouais,
vite,
ouais, c'est ça,
au secours, ouais. On dirait que c'était hier, et les gens dans la rue m'arrêtent encore,
c'est
la graine et le mulet, la scène, ouais tout le temps, tous les jours presque.
Ça prouve que vous n'avez pas beaucoup vieilli, qu'on vous reconnaît.
On me dit que j'ai pas trop vieilli.
C'est exact.
À ce qui paraît.
On va se retrouver tout au long de cette émission, et on écoute justement un extrait d'un bande originale de Sex Doll de Sylvie Vered, où vous jouez Virginie et Malika, la même personne évidemment, à Via Hersi.
Je me sens glacé, je me sens froid, frigorifié à l'étroit. Je me sens vide, caverneux, translucide et vitreux. Je sens mon cœur qui bat, qui palpite. Encore pour toi, mais moins vite. Je sens mes yeux qui s'enlisent peu à peu. Je lâche prise. Je rentre en hypnose. Je pense à toi, mais j'ai besoin d'autre chose. D'autre chose. Je rentre en hypnose. Je te défie, maintenant reviens si tu l'oses. Si tu l'oses. Car quand je rentre en hypnose.
Voilà, c'est un extrait de la bande originale de Sex Doll de Sylvie Vered, avec dans le rôle principal Avia Herzi. Nicolas, vous nous resituez un petit peu, comment on peut nous
pour
nous
intervenir,
joindre,
pour intervenir, poser vos questions, pour intervenir de manière globale dans l'émission, c'est sur Twitter, Séance Radio avec le hashtag La Grande Séance, ou sur Facebook.
Et on se retrouve dans un instant pour la séquence événements.
Les événements cinéma sont dans La Grande Séance.
Alors, le principal événement, c'est du 15 au 18 décembre, donc très prochainement, partout en France, la fête du court-métrage, qui est un événement national, qui est dédié au court-métrage et qui est soutenu par le CNC et BNP Paribas. Ça va durer 4 jours, on va voir toutes sortes de courts-métrages, 2500 lieux de projection dans toute la France. Vous allez voir vraiment un programme de courts-métrages incroyable. Tout ça a été fait avec l'agence du court-métrage. Il y aura 120 courts-métrages, entre autres, regroupés autour de 6 thèmes. Et puis, au Carreau du Temple, vous aurez la possibilité de découvrir la pratique du court-métrage à travers des rencontres, des ateliers, des animations, des masterclass. Vous allez pouvoir suivre ce festival en direct avec Séance Radio, en direct du Carreau du Temple, les 16, 17 et 18 décembre, donc les 3 jours du festival. Betty Mourao, que vous connaissez bien, et les blogueurs, 11h, 14h et 15h. Et moi-même, je présenterai une émission durant les 3 jours à 17h pour parler du court-métrage avec nos invités, notamment peut-être Julie Gaillet, qui est la directrice artistique, la marraine de ce festival. Donc voilà, surtout écoutez Séance Radio parce que vous serez en direct sur ces courts-métrages et vous saurez tout. Le Festival du cinéma européen des Arcs, autre événement, c'est bientôt du 10 au 17 décembre. Alors c'est le festival européen bien sûr, avec des longs-métrages et des courts-métrages. Le président du jury, vous le connaissez, Javier Herzis et Radu Mihailianu, qui sera là-bas aux Arcs. Il y aura dans le jury Mélanie Doutet, Catherine Corsini, Mélanie Bernier, et puis il y aura un jury du court-métrage, c'est la 8e édition, donc ça c'est le Festival du cinéma européen des Arcs. Et puis voilà pour les grands événements. On parlera tout à l'heure d'un autre événement, c'est la convention du cinéma d'animation, mais ça c'est pour notre débat. Et ben dans un instant, on se retrouve avec Antoine Cyr.
La grande séance. Le mot d'Antoine Cyr.
Alors tout est simple, Antoine. J'ai découvert votre beau livre Hollywood, la cité des femmes. Je dis le principe, Hollywood, c'est Humphrey Bogart, c'est John Wayne, c'est tous ces hommes-là. Mais en fait, il faut creuser un petit peu. On s'aperçoit que oui, il y a eu Greta Garbo, il y a eu Marilyn Monroe, il y a eu Lorraine Bacall, il y a eu Catherine Hepburn, toutes les grandes. Et vous avez travaillé un long moment pour sortir un très beau livre de 1300-1400 pages.
1250 pages. Oui.
1300 pages. C'est presque du papier Bible, c'est magnifique. Et on découvre le portrait de toutes ces femmes. Portrait sérieux, mais forcément portrait un peu people, parce qu'il y a des anecdotes incroyables sur la façon dont ces grandes stars débarquaient à Hollywood. Greta Garbo qui s'appelait comment?
Elle s'appelait Gustafsson.
Voilà, absolument.
Donc elle a cherché assez vite à faire oublier ce nom-là qui a fait. Mais il y a d'autres cas, comme par exemple John Crawford, qui s'appelait Lucille Le Sueur.
Ah oui,
et
d'accord.
Sueur,
c'est peut-être pas un nom de.
Et Sueur, ça veut dire quand c'est mal prononcé en anglais, ça fait Sueur, qui veut dire égout. Ah
ouais,
donc du coup, assez vite, on lui a demandé de changer de nom. Et là, la Metro-Goldwyn-Mayer a organisé un concours dans toute l'Amérique pour choisir le nom de John Crawford. Et le nom de John Crawford a donc été choisi par une spectatrice. Ce qui nous ramène à une époque où, en fait, il y avait 8 producteurs, 8 studios qui possédaient tout, qui employaient les réalisateurs, les comédiens, tout le monde. Et, en fait, c'est à la tête de ces studios, donc, il y avait évidemment des hommes qui imposaient un regard plutôt masculin. Eux, ce qu'ils voulaient, ils avaient un plan marketing dans lequel ils avaient prévu qu'il y avait des femmes très bien coiffées sur lesquelles ils feraient leur communication. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que quand on regarde vraiment les films de l'âge d'or d'Hollywood, on voit des films qui sont des films très complexes, très intéressants, dans lesquels il y a des rôles féminins qui sont extrêmement riches, et plus on creuse le sujet, et plus on se rend compte que probablement il y avait une espèce de pacte secret entre les actrices et les réalisateurs, parce que je pense que les actrices étaient plus ouvertes à ça que ne l'étaient les acteurs, qui eux voulaient quand même souvent jouer des personnages,
ouais, des gros durs,
etc. Je pense qu'il y avait une espèce de pacte secret, de recherche de sophistication, de rôle en fait qui casserait les stéréotypes.
Moi, vous voulez dire que les personnages féminins avaient plus d'épaisseur et d'intérêt que les personnages masculins.
Je veux rien dire contre Humphrey Bogart ou contre Lemaître et Rolf Lynn, qui ont d'ailleurs bercé ma propre enfance. Mais oui, je pense que le travail, je pense que l'obsession d'être une grande comédienne et une certaine complicité du metteur en scène pour que ce projet fonctionne était absolument omniprésent. Je pense que des gens, quand on voit des gens comme Bette Davis, quand on voit des gens comme Katharine Hepburn, quand on voit des gens comme Barbara Stanwyck, par exemple, Barbara Stanwyck, sur toute sa carrière, tous les réalisateurs qui ont travaillé avec elle disent, elle arrivait sur le plateau, elle connaissait ses répliques, elle connaissait les répliques des autres, elle avait répété son truc, on pouvait bien sûr travailler avec elle et approfondir, mais il y avait une espèce de recherche d'approfondissement qui existait chez ces actrices qui probablement n'existait pas de façon générale
même,
chez ces acteurs
masculins. Même si elle n'aimait pas son rôle, par exemple dans Assurance sur la mort, elle ne voulait pas jouer une garce.
Alors elle voulait pas, mais le jour où Stanwyck a décidé de rentrer dans le truc, le jour où Billy Wilder lui a dit êtes-vous une actrice ou une souris, et qu'elle a répondu avec son, il a dit ça avec son accent allemand, et elle lui a répondu bon allez finalement je suis une actrice, alors là elle a accepté, elle joue le truc à fond, parce que son arrivée quand elle descend l'escalier et qu'on voit sa petite chaîne autour de la cheville, qu'elle regarde Fred McMurray, qu'elle le rend complètement fou, c'est génial.
C'est vrai que les acteurs hommes sont complètement phagocytés par elle, quoi.
Ouais, ouais. Est-ce que c'est pas aussi parce que les réalisateurs étaient un peu amoureux de leurs actrices?
Oui, mais bien sûr. Mais il y a des couples qui sont.
Il y avait beaucoup de séduction, elles étaient beaucoup dans la séduction à l'époque et prêtes à tout, je pense, ouais.
Oui, elles étaient. Alors ça, c'est vrai, mais quand même, ce qui est très intéressant, parce que oui, elles étaient dans la séduction, mais il y a pas mal d'actrices qui jouent des rôles dans lesquels elles s'enlaidissent beaucoup. Par exemple, c'était la spécialité de Bette Davis, mais une Olivia de Havilland le fait aussi. Une Barbara Stanwyck va jouer une garce quand même psychologiquement tellement repoussante qu'elle finit par l'être aussi physiquement. Donc il va y avoir une obsession de leur part de jouer des rôles qui sont de grands rôles dramatiques, ce qui est tout à fait ou des rôles comiques très complexes, par exemple les rôles que joue Stanwyck dans les Screwball Comedy ou Katharine Hepburn dans l'impossible Monsieur Bébé, c'est des rôles qui sont des rôles très complexes et c'est une demande de forte, pardon, mais souvent elles vont prendre des risques énormes face à ces studios qui ont un pouvoir gigantesque. Et elles vont affronter seules la machine du studio en disant écoutez, maintenant, vous me donnez tout le temps des rôles de potiche. Moi, j'ai une formation d'actrice shakespearienne, donc vous me cassez les pieds. Maintenant, je veux jouer des vrais rôles. Et elles l'ont fait. Olivia de Havilland a gagné un procès mémorable contre la Warner. Tout le monde lui a dit tu vas te casser la figure face aux 200 avocats de la Warner, et elle a gagné le procès.
Est-ce qu'elles étaient un peu façonnées physiquement quand même par les producteurs, parce que on leur a demandé de changer de coiffure, de maigrir. Dans votre clip, on raconte une anecdote, je sais pas si c'est à propos de Garbo ou de quelqu'un d'autre. On n'aime pas les femmes grosses à Hollywood.
C'est Garbo. On lui a dit, mais bien entendu, par exemple une Rita Hayworth a été totalement reformatée par le studio. Elle n'était pas du tout comme ça à la base. C'est le cas
Ingrid
de
Marilyn Monroe.
Ingrid Bergman, c'est
Marilyn
le contraire. Marilyn Monroe, c'est un peu particulier parce que contrairement à ce qu'on pense, Marilyn Monroe s'est énormément prise en charge elle-même. C'est-à-dire son studio qui était la Fox ne croyait pas énormément à elle, et donc oui, elle a eu des Pygmalions, mais c'est un peu elle qui s'est
qui a complètement dirigé,
mais elle s'est prise en main. Elle s'est laissée guider par un entourage qu'elle a un peu elle-même fabriqué, ce qui est un cas un peu original, mais c'est parce qu'elle arrive à la fin de l'âge d'or des studios. Les studios sont déjà moins riches et ils n'ont plus cette espèce de capacité de mobiliser des armées qui vont complètement formater les acteurs de l'époque.
Et moi, il y en a une que j'adore, c'est Katharine Hepburn, qui est un peu garçon manqué, elle, non?
Alors, Katharine Hepburn est un peu garçon manqué, mais c'est surtout une femme qui va jouer un rôle énorme dans le mouvement des idées en Amérique. Le premier film avec sexuellement assez ambigu, c'est Sylvia Scarlett, où elle est déguisée en femme, ou en homme, pardon, où elle est déguisée en homme et où elle embrasse embrasse une femme et en même temps rend amoureux un homme qui croit qu'elle est un homme, donc dans la censure,
personne n'est parfait.
Non, ça c'est dans cette
je sais, je sais,
je sais,
sais,
bien sûr. Et donc il y a une espèce de provocation absolument énorme. Ensuite, quand d'un seul coup elle va un peu s'assagir et qu'elle va devenir l'égérie de la MGM, qui était le studio le plus conformiste, d'un seul coup elle va faire La Femme de l'année, qui est le premier film sur la parité au travail. C'est elle qui amène le sujet à la MGM. Ensuite, elle va faire Madame porte la culotte, qui est le premier film américain où on dit que c'est pas très bien qu'un mari batte sa femme. C'est elle qui va amener le sujet. Ensuite, elle va être dans Devine qui vient dîner. Ça va être le premier film où on voit des Américains moyens qui laissent leur fille épouser un noir. Donc, il va vraiment y avoir... Elle va jouer un rôle très important et souvent sur des sujets qu'elle a amenés elle-même. Ça, c'est extraordinaire.
Comme une productrice.
Mais d'ailleurs, il y en a qui ont été productrices.
Alors, vous voyez, il y a 1250 pages comme ça. Donc,
passionnant.
Pas, Hollywood, la cité des femmes d'Antoine Cyr. Il faut absolument, pour tous ceux qui aiment le cinéma, mettre ce beau livre au pied du sapin. Dans un instant, on continue à parler cinéma avec notre débat sur l'animation.
La grande séance, le débat.
Donc, on a décidé de faire ce débat parce que c'est vrai que, entre autres, La Tortue Rouge, qui est un film magnifique, est un chef-d'œuvre du cinéma général, sans parler simplement d'animation, de Michael Dudok de Witt, Ma vie de courgette de Claude Barras, La jeune fille sans main de Sébastien Lodenbach, et il y a en ce moment au forum, à partir de demain, un grand forum autour de l'animation avec plein d'invités, avec des étudiants de l'école des Gobelins et d'autres qui vont faire un film sur commande à partir d'une image avec plein d'invités célèbres. Donc allez-y, c'est jeudi, vendredi, samedi, dimanche au forum des images. Ça vaut vraiment le coup parce que vous allez voir beaucoup de films d'animation. Et on se disait que oui, il fallait faire parler de ce cinéma-là parce qu'il est très riche. En France, il est très riche aussi. Il marche pas tout le temps. Parfois, je sais qu'ils ont du mal à donner une visibilité à ces films-là. On le sait parce que on sait pas trop. Est-ce que c'est des films pour adultes? Est-ce que c'est des films pour enfants? Il y a eu Louise en hiver récemment qui est magnifique aussi. Et puis, il y a les films d'animation américains qui débarquent et qui, eux, font des millions d'entrées. Alors, Claire, la parole, qu'est-ce que vous pensez de ça?
Alors, moi, je consomme beaucoup de films d'animation. Donc, déjà, il faut distinguer, à mon avis, les films pour enfants et les films pour adultes qui sont de plus en plus nombreux. Et ensuite...
Dont Sausage Party qui vient de sortir,
voilà.
Qui est un film quasi pornographique,
voilà.
Qui n'est pas vraiment...
N'emmenez pas vos enfants voir Sausage Party.
Alors, cela dit, c'est pas nouveau, hein, parce qu'il y avait par exemple, il y avait le chaînon manquant
Fritz the Cat,
qui était des dessins animés vachement gonflés dans les années 70-80. Ouais. C'est pas tout à fait nouveau.
Sausage Party, c'est des légumes, en gros, qui font l'amour, mais donc ce sont que des légumes.
Il n'y a pas des légumes.
Il y a une miche de pain.
Mais après. C'est vrai que c'est difficile de parler de nationalité maintenant pour le cinéma. Donc la French Touch en animation est très connue, très réputée. Et c'est vrai que souvent après ils vont travailler aux États-Unis, rejoindre des grands studios comme Pixar. L'exemple de La Tortue Rouge, c'est un réalisateur qui est néerlandais, si je me trompe pas, avec des capitaux français et aussi les studios Ghibli. Donc, j'ai l'impression que le cinéma d'animation, il faut plutôt regarder qui est derrière, qui produit, qui est l'artiste surtout, qui réalise.
Il y a quand même une différence entre les grands films américains, où moi j'ai été élevé à Disney, la Blanche-Neige, avec les gros personnages. Alors, on vous dit qu'il y a 1000 couleurs dans la mer, que tout est bien fait, mais il y a des gros personnages qui ressemblent à des poupées en plastique que je trouve extrêmement laid, il faut le dire. Alors que souvent les films d'animation français, il y a du pastel, c'est presque dessiné au papier canson, comme Louise en hiver.
La jeune fille sans main. Visuellement, c'est hyper intéressant.
C'est de l'art.
C'est de l'art.
Ça aussi, c'est une tradition. Parce que les dessins animés de Paul Grimaud, c'était de l'art. Le formidable La planète sauvage de Topor et Lalou, je crois, qui était un truc...
La guillotine Guioni qui continue dans cette voie.
Guioni, Louise en hiver. Louise en hiver, c'est un très beau film pour adultes. C'est l'histoire d'une vieille dame qui est perdue dans une station balnéaire, qui comprend pas pourquoi elle a raté le train, qui va rester là seule avec son chien. C'est magnifique, c'est magnifique.
Donc oui,
Louise en hiver.
Oui, la question de savoir si le cinéma d'animation francophone ou des petits studios ou, peut rivaliser avec les grosses productions américaines. Ben oui, c'est possible, mais c'est pas pour le même public.
Le chat du rabbin, c'est un film d'animation.
Oui.
Vous aviez fait une voix, vous.
Oui, oui. Zabia, voilà. Oui. Et là, d'ailleurs, il va l'adapter au cinéma.
Ah oui, il va l'adapter au cinéma.
J'ai entendu ça. Ouais.
Regardez Persepolis, le succès qu'a eu
Persepolis. Oui, magnifique, Persepolis.
Et même le chat du rabbin.
Ouais, c'était magnifique
en
aussi.
En plus, c'est long, hein, l'animation.
Oui, c'est long. C'est très, très long
à
faire.
C'est un gros travail.
Que ce soit dessiné ou que ce soit en stop motion, c'est absolument.
C'est des années, oui.
Ma vie de courgette, vous n'avez pas eu le temps de voir. Et c'est magnifique. Et c'est du stop motion. Il faut des heures pour filmer. Alexis.
Bah en fait, l'animation, justement, ça prend beaucoup de temps. C'est que ça a du temps, et le temps, c'est de l'argent. Et au cinéma, on n'a pas forcément beaucoup. Et donc, au niveau des films, des studios américains et des films, on va dire, européens ou japonais, on en revient à cette tradition du film de studio qui est surfinancé avec des dates prévues à l'avance, avec des millions de dollars derrière.
Absolument.
Et les petits films d'auteur, on va dire, La Tortue Rouge, en fait partie, et on trouve que c'est magnifique et c'est pas standardisé.
Non.
Après.
Et ça a moins de succès.
C'est atypique, c'est comme
ça. Cela dit, ça arrive à sortir son épingle du jeu. La Tortue Rouge a fait il a fait 300 ou 400 000 entrées, quand même.
C'est
incroyable pour un film d'animation.
Mais après, si on en revient à l'animation française, justement, Claire parlait des animateurs français qui partaient donc à l'étranger. Donc, on fait les écoles des Gobelins, des écoles très prestigieuses qu'on a en France, qui sont recrutées par Pixar et tous les studios américains. Mais en France, en tout cas, si on parle en France, il y a le studio Illumination qui s'est créé qui est à Paris, et en fait eux ils sont à l'origine des films comme Moi Moche et Méchant, comme Les Mignons et tout ça, enfin qui ont fait leur beurre là-dessus.
Ouais,
et
justement, ils le font à l'américaine,
ils sont en partenariat avec Universal et ils ont réussi à tirer leur épingle du jeu en proposant un truc à l'américain, tourné en anglais et tout ça, mais destiné à un public anglophone d'abord, et c'est comme ça qu'ils ont réussi à s'en sortir. Mais après, on en revient à l'idée où c'est plus vraiment un film d'auteur, c'est vraiment un film de studio. Moi je trouve ça un peu dommage, parce qu'il faut vraiment qu'il y ait les deux qui subsistent encore.
On a des films français comme Le Petit Prince qui sont réalisés par un américain qui a fait Kung Fu Panda. Donc c'est pour ça que je dis, c'est un peu compliqué de distinguer.
J'ai lu tout un article je crois que c'était dans Écran Total, dans un film français, qui disait qu'ils ont, un vrai problème, parce que les studios américains, ils ont une somme colossale en promotion, donc on les voit arriver de loin, les Vaiana, les Toy Story et autres, alors que pas les studios français, pas Louise en hiver, pas non plus. Il y a eu un film magnifique qui se passait dans un bateau perdu dans les glaces là.
Tout
en haut du monde, qui est magnifique, super bien dessiné, qui n'a pas eu le succès qu'il méritait.
Avec un beau personnage féminin.
Parce qu'ils n'ont pas de visibilité. Et ça c'est le vrai problème du cinéma d'animation français européen. On est d'accord.
Pour multiplier les copies, la promotion, les affiches, tout ça. Ça coûte énormément d'argent, et le problème, c'est l'essentiel du budget du film est consacré au film lui-même pour qu'il soit au moins terminé et visible pour tout le monde, quoi.
Mais je pense que le bouche à oreille se fait, et qu'après il peut y avoir aussi grâce au festival et aussi à la vidéo des films qui connaissent des films d'animation qui connaissent une seconde vie après, en fait. Et pour finir, il y a quand même Ballerina
qui va sortir.
Voilà, que j'ai vu.
C'est quoi Ballerina?
C'est l'histoire d'une jeune fille, une jeune orpheline bretonne dont le rêve est de danser à l'opéra.
Et c'est français?
Et suspense, va-t-elle y arriver? Et c'est français, c'est Gaumont. Et c'est français.
Et c'est joli.
Moi, j'ai beaucoup aimé. Après, peut-être que certains vont trouver justement que c'est assez proche de ce qu'on voit dans d'autres studios d'animation, mais moi, j'ai beaucoup aimé. Et il y a aussi L'Abattage géante de boules de neige, qui est un gros succès au Québec, qui était film de 84 avec des acteurs en chair et en os, et qui a été adapté et qui sort pour les fêtes aussi également.
Et Ballerina sort quand?
Ballerina, 14 décembre.
14 décembre, donc voilà.
Pour les fêtes également.
Et puis en attendant, vous pouvez aller au Forum des Images, puisqu'à partir de demain, le 8 décembre jusqu'au 11 décembre, il y a cet événement où on voit plein de films d'animation. Antoine, vous aviez un mot à dire?
Alors oui, mais alors il a rien à voir avec l'animation, mais je peux le dire quand même.
Oui, allez-y, bien sûr.
C'est que dans 2 jours, Kirk Douglas va avoir 100 ans.
Ah,
incroyable.
Joyeux anniversaire en avance.
Donc on va quand même...
voilà, on va lui croiser les doigts pour que tout se passe bien. Mais
alors, puisque vous parlez de chiffres, demain, je crois que c'est les 50 ans de la sortie de la Grande Vadrouille, on m'a dit ça.
Ah oui,
pas mal, hein, aussi.
Pas mal, mais la Grande Vadrouille résiste.
C'est
plus facile pour un film restauré de résister que pour un acteur, quoi.
Un peu restauré aussi.
Voilà. Bon. On sait jamais.
Dans un instant, notre fameux blind test. Quelques films de Noël à revoir pour les fêtes. On y va.
Jouez avec la grande séance. Tout de suite, le blind test dans votre émission 100% cinéma.
Alors, on écoute le numéro 1 tranquillement.
La veille de Noël, il y a de nombreuses années, j'étais couché tranquillement dans mon lit. Je ne froissais pas les draps.
L'américain déjà.
Je respirais doucement et calmement. J'attendais un son que j'avais peur de ne pas entendre. Le tintement des grelots du traîneau du Père Noël.
Oh, là, vous me décevez, là.
C'est pas Pôle Express, non, c'est pas ça.
Bravo, ah. Bien joué. Le numéro 2.
Joyeux Noël, Harry.
Joyeux Noël, Ron.
C'est
quoi
ce
Harry Potter?
Harry Potter, mais lequel, le premier, je dirais.
Mais lequel?
Le
je crois non, qu'il y en a reçu un.
Si. Enfin, je sais pas.
Le sorcier.
À l'école des sorciers.
Ah, bah, c'est, voilà, le premier.
C'est le premier. Oui. Chris Columbus, 2001.
Un beau travail d'équipe.
Maintenant, je vais vous donner. Pour que ce soit plus difficile, je vais vous demander les dates. Hein.
Ah, oh non.
Ça, c'est facile.
Cette année, j'avais envie de faire un truc un peu design, une bûche, pas sortie au décor.
La bûche.
Antoine.
Tout or et blanc cette année.
La bûche de Daniel Thompson. Quelle année, allez.
97.
Tu pourrais faire une
99,
genre...
c'est bien. Oh, c'est
pas loin. Trépistage.
Alors là,
moi je connais pas du tout. Là, je sais pas si c'est difficile.
Arrête.
Le numéro 4.
Joyeux Noël, le Père Noël arrive. T'as pas vu le nouveau Père Noël qu'ils viennent d'engager?
Si, là-bas, derrière, bourré.
C'est un vieux français.
Il va venir, les petits loups. Le Père Noël arrive tout de suite.
Américain.
Bizarre.
De Terry Zwigoff.
Non, j'aurais dit c'était Shrek, c'était la voix du doubleur.
Un truc genre Bad Santa ou un truc...
Bad Santa, bravo Alexis.
Avec Billy Bob Thornton.
Trop fort. Ouais. Le numéro 5.
Laissez-moi m'attraper, Thérèse.
Ah, oh ben le Père Noël est plus dans
l'eau. Les très amis, joyeux Noël. Allô? Oui, joyeux Noël.
Ce soir, la télé, je crois.
Il passe ce soir à la télé.
La 150e mille fois.
Le Père Noël est toujours
là.
Celui-là est assez difficilement évitable dans les
Jean-Marie Poiré, quelle date? Ah, ça remonte ça.
Oh là là, c'est quand j'étais jeune.
C'est une question pour Antoine Cyr.
1982.
Ah, oui.
Vous n'étiez même pas né, Abzia.
Non, non.
Alors, ah, celui-là. C'est Noël, mais c'est parce que c'est l'époque où se déroule ce thriller. Numéro 6.
Et à moi à Los Angeles, on passera Noël en famille, on fera la fête.
Pièce de cristal.
Oui. C'est difficile parce qu'en plus c'est doublé en français. Pièce de cristal de John McTiernan, 1988. Ah, un joli film romantique et tout. Le numéro 7.
Nous sommes un petit pays, certes. Grande nation.
Bravo.
Ah, oh, bah oui.
Patrie de Shakespeare.
Je lui envoie tous les gens.
Ah, oui, d'accord. Richard Curtis, quelle année?
2003 ou 2004.
Bravo, 2003. C'est bon. Plus grave, le 8.
Cette maison appartient à mon mari. Il en a hérité le jour de notre mariage.
Noël.
Et nous y avons vécu depuis.
Un conte de Noël.
Nous avons l'habitude avec vos
chiens.
Il vient parfois en vacances.
Quelle année, cher Alexis?
2010, non?
Le plus vieux.
2005.
2007. Entre les deux. Entre les deux. Un désormais classique, le numéro 9.
Qui n'a pas
le
berce oreille? Ah,
c'est
l'étrange
Noël
de Monsieur Jack.
Liqueur.
De Tim Burton. Tim
Burton.
Ah non,
Henri Selick.
Oui,
Henri
Selick.
Avec le graphisme
de Tim Burton. Voilà. Quelle année?
Oula.
97,
je dirais.
16.
96-97, ouais, quelque chose comme ça.
Ah, le temps passe plus vite. Hein. 1993.
Ah,
ah oui.
Et le dernier.
Attendez-moi! Alors, chacun prend sa serviette et sert à boire, je ne fais pas le service.
Maman, j'ai raté l'avion.
Bravo.
Bravo.
Mais il faut aller dans les émissions cinéma faire des quiz, Alexis. Hein. Chris Columbus.
Bah, il n'y en a pas des quiz sur le cinéma.
Bah, non, c'est
non, mais par contre, il y a des championnats, il y a des types qui font des championnats de quiz.
C'est vrai?
Oui, oui. Il y a un type que vous connaissez sûrement, d'ailleurs, qui s'appelle Jean-Olé Laprune, qui est un cinéphile. Il a écrit plusieurs livres, d'ailleurs, sur le cinéma. Hein. Mais en ce moment, c'est lui qui est champion du monde des cinéphiles.
C'est pas vrai.
Si, si.
Il y a un championnat du monde des cinéphiles.
Enfin, à peu près, oui. En tout cas,
il répondrait à tout ça, là.
Ah, bah là, oui.
Là, c'est facile.
Mais il vous répondrait aussi pour les films de l'année 1926.
Oui, ça, c'est fort. Dans un instant, on se retrouve pour se dire au revoir.
La grande séance, l'émission 100% cinéma de Séance Radio.
Alors, je vous rappelle que notre invité, c'était Avzia Herzi, qui nous a fait le plaisir et l'honneur de venir dans ce studio pour Sex Doll de Sylvie Vered, avec entre autres Karl Roll-Rocher et d'autres excellents acteurs. Une dernière question, Avzia, quels sont vos projets après ce film? Vous avez déjà tourné?
Oui, ah bah après j'ai tourné. J'ai tourné trois films après
trois
qui
films.
Vont sortir, ouais. Oui.
Qui vont sortir
bizarre,
en cascade.
Ouais.
Hein,
ouais.
Mais ça arrive, c'est toujours comme ça,
arrivé,
les sorties.
Ouais.
Tout est arrivé. Alors lesquels?
Alors,
faisons un petit teasing.
Alors, un premier film qui s'appelle Les Philosophes de Guilhem Amélan. Mmh. Voilà.
Après, qui parle de quoi? Qui est quoi? C'est un polar? C'est un.
C'est une comédie.
Une comédie.
On va dire comédie d'auteur, hein. Parce que,
d'accord.
Voilà.
Mais c'est une comédie.
En gros, ouais.
On sourit.
On sourit, j'espère.
On sourit.
J'ai fait le film de Eric Zonka qui s'appelle Fleuve Noir. Avec, c'est un polar.
On en parle beaucoup, ça, hein.
Oui. Du coup,
Il y a Romain Duris.
Il y a. Alors, c'est un. Ouais. Romain Duris, Vincent Cassel, Sandrine Kimberlin.
Oh là, voilà. C'est chaud, ça.
Oui. Et moi, je suis l'intrus. Donc, dans le casting.
C'est quoi le thème?
C'est une enquête policière.
Non, une enquête policière.
Voilà.
Eric Zonka, ça fait un bout de temps qu'on l'a pas vu au cinéma,
oui.
En tout cas. Hein.
Et c'était super de travailler avec lui. Ouais,
ouais, c'était un excellent metteur en scène. Et le troisième?
Et le troisième, un film tunisien, franco-tunisien de Mehdi Benatia, qui s'appelle L'amour des hommes, voilà.
Ouais.
Où je joue une photographe.
Après la source des femmes, l'amour
voilà,
des hommes.
L'amour des hommes, voilà, ouais.
Merci en tout cas, Avzia Herzi.
Merci à vous, merci beaucoup.
D'avoir été notre invité pour Sex Doll de Sylvie Vered. Merci à tous, c'est la fin de l'année quand même, donc on va se retrouver que le 4 janvier. Donc ça va être le temps des bilans. Juste avant de terminer, un coup de cœur sur l'année 2016. Claire,
Je crois qu'on a un peu le même coup de cœur.
Ah bah allez-y, ça fonctionne. Hein.
J'ai beaucoup aimé récemment Premier Contact.
Premier Contact,
voilà,
Denis
Villeneuve.
Vous aussi?
Oui. En fiction,
Denis Villeneuve.
Voilà. Vous parlez pas
pas Sex Doll.
De Ken Loach, de Sex Doll. Vous l'avez pas vu, Sex Doll.
Alors, Ken Loach, c'est un gros coup de cœur également.
Ouais, parce que moi,
Daniel Blake.
Hein.
Magnifique.
Ouais. Moi, Daniel Blake. Hein. Vous l'avez vu, Avzia?
Oui, magnifique. Ouais, j'adore Ken Loach.
C'est super. Hein. Moi, je crois que je vais le mettre dans mon film préféré de.
Un gros coup de cœur, c'est un documentaire. C'est le documentaire Homeland d'Abbas Fadel, qui est en deux parties sur l'Irak, qui dure 5h30.
Et moi, ça m'a.
J'ai tourné avec Abbas Fadel.
Qui est merveilleux.
Nicolas,
Eh bien, toute l'actualité de la radio et toute l'actualité du cinéma, ça se passe sur Séance Radio, Twitter, Facebook, sur nos réseaux sociaux.
Et puis rappelez-vous ce rendez-vous dont je vous ai parlé pour vivre la fête du court-métrage avec Séance Radio les 16, 17 et 18 décembre prochains en direct du Carreau du Temple à Paris avec plein d'émissions, dont la mienne. Voilà, il faut se vendre. À l'année prochaine, tout simplement.
Et joyeuses fêtes.
C'était la grande séance, l'émission live 100% cinéma. Retrouvez Bruno Kras et toute son équipe sur Séance Radio par BNP Paribas.
Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.
Ever Googled your own name? Prepare for a shock, because your personal info, including addresses and phone numbers, is out there, especially with the recent hacks at some big phone and healthcare companies. But here's where Aura steps in. Aura scans the dark web for your sensitive information and sends real-time alerts. Aura also actively requests that your information be removed from data broker sites, putting you back in control. Aura provides you with a complete online safety toolkit, credit and transaction monitoring, a secure password manager, a privacy-enhancing VPN, parental controls, and more. Try Aura risk-free with a 14-day trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety. Rest easy with Aura. Visit aura.com/safety today.